Tocati.
Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse, une émission qui revient chaque vendredi sur l'actualité de la semaine. Et à la une cette semaine, la mort d'un casque bleu népalais et la capture de sept autres casques bleus népalais prisonniers d'éléments armés appartenant au front des nationalistes et des intégrationnistes de Peter Karim dans le district de Litori. Un autre dossier est la grève des médecins à Kinshasa et à Matadi depuis le début de cette semaine. Et enfin, nous parlerons des différentes manifestations et marches organisées cette semaine à travers différentes villes du pays pour soutenir ou protester contre les calendriers électoraux établis par la Commission électorale indépendante. Les invités de cette tribune de la presse aujourd'hui sont Patrick Mouyaya, journaliste à la chaîne Radio-Télévision CBS. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Pauline.
Éric Kadiemba, journaliste à la radio Maria de Bukavu. Il intervient dans cette émission au téléphone à partir de Sud-Kivu. Bonsoir Éric.
Bonsoir Pauline.
Nous sommes également dans ces studios avec Nancy Odia, qui est directrice d'information à Congo Web Télévision. Bonsoir Nancy.
Bonsoir.
Encore une fois, bonsoir. Alors, dimanche dernier, un soldat népalais a été tué lors d'un accrochage survenu dans la région des Tchoupou. C'est à 100 km de Bounia en Ituri. C'était alors que les casques bleus de la MONUC prêtaient main forte au FARDC dans une attaque menée contre des miliciens du Front des nationalistes et intégrationnistes FMI du chef de guerre Peter Karim. Lors de cet affrontement qui a eu lieu la veille de la journée internationale des casques bleus, sept casques bleus népalais ont été capturés et faits prisonniers par les éléments armés de ce même chef milicien. Dès lors, la MONUC ne cesse de lancer des appels à ses ravisseurs pour qu'ils les libèrent dans l'immédiat. Et sans conditions. Donc, pour qu'ils libèrent dans l'immédiat et sans conditions ces otages. Alors, Patrick Mouyaya, comment avez-vous analysé cette actualité?
Comment je l'ai analysé? Premièrement, je constate encore que les miliciens qui opèrent en Ituri ont encore cette capacité de nuisance, mais moi je me dis qu'ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Quand on regarde les taux qui se resserrent de plus en plus sur eux, on a vu au Katanga un chef de guerre aussi redoutable qui a quelques temps se rendre, on a vu Indiana Queen il y a quelques jours. L'aventure de Peter Karim donne peut-être le fruit aujourd'hui. Il y a des casques bleus qui sont en otage. Bon, mais c'est son lendemain, puisque avec les différentes opérations conçues et menées par la FRDC en appui avec la MONUC, il sera bien contraint soit de libérer de ses otages, c'est l'idéal d'ailleurs, ou peut-être qu'il sera contraint d'une autre manière à se rendre et à replier tout ce qu'il a comme armes et capacité de nuisance.
Éric Kadiemba, comment également comprendre ces événements à Ituri?
Oui, c'est bien dommage que ça soit arrivé ainsi, parce que on sait que ces opérations conjointes MONUC et FARDC connaît beaucoup d'avancées et est en train de stabiliser pratiquement l'Ituri. Et comme venait de dire Patrick, je pense que le FNI ou encore le MRC devrait comprendre que la dynamique actuelle ne permet plus à ce qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire, et nous espérons qu'ils ne vont pas faire la bêtise de nuire à ces personnes, disons, à ces casques bleus qu'ils ont pris avec eux, mais plutôt ils devraient comprendre justement que nous sommes disons, les taux intentants serrés contre eux, et que les Congolais du nord aussi, de l'est à l'ouest, ne veulent plus de ce qu'ils font, et donc ils n'ont plus qu'un choix que celui de se rendre à l'instar de ce qu'a fait Gédéon à Ituri.
Nancy.
Non, au Shabbat, je veux dire.
Oui, ok, d'accord. Nancy Odia, bon, nous approchons donc des élections. Comment pouvez-vous analyser cette situation à la veille même de cette échéance tant attendue par tous les Congolais?
Ben, moi, je me dis, la MONUC d'abord constitue une force militaire puissante, certainement la plus puissante qui existe ici en République démocratique du Congo, parce que elle est certainement 10 fois mieux équipée que les FARDC, jointe aux troupes de la place. Elle ne pourrait qu'être une force encore plus puissante. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est comment ils en sont arrivés là? Comment ces hommes sont arrivés au point d'être capturés par des milices qui certainement ne sont peut-être pas aussi équipées que ces troupes mixtes? Bref, ça nous relance la question du brassage qui se fait à compte-gouttes à l'approche des élections. S'il y a des milices qui se permettent tout sans être inquiétés, permettez-moi de le dire ainsi, on se demande comment on pourrait finalement arriver à sécuriser ces élections. Est-ce que la CEI pourra acheminer les urnes vers les coins où ces milices trônent? Est-ce qu'on pourra, à la date prévue, organiser ces scrutins si cette question sécuritaire n'est pas maîtrisée? Voilà bien une question qu'il faut se poser et résoudre au plus vite, le plus vite possible. Sinon, on risque peut-être de voir le calendrier de la CEI encore perturbé et on donnerait raison à ceux qui prétendent qu'il faut se mettre autour d'une table. Bref,
Est-ce que se mettre autour d'une table pourrait éradiquer la problématique même des Litouri avec les groupes armés? Ça ne pourra pas mettre fin, par exemple, à l'existence même de ces miliciens?
C'est une parenthèse, je dis. Si cette question n'est pas réglée le plus vite possible, elle pourrait perturber tous les calculs faits par ceux qui gèrent ce calendrier électoral. Alors, ceux de l'opposition, ceux qui revendiquent les négociations, pourraient alors s'en servir comme pour dire, voilà, nous avions raison à l'époque, mais on n'a pas entendu, voilà ce qui arrive. Et c'est le temps de s'y mettre, et effectivement, faire en sorte que l'armée soit brassée. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger dans tout cela. Nous avons appris que jusque-là, à part ces milices qui trônent en Ituri et ailleurs, il y en a ici, au pays, qui continuent à entretenir leurs propres milices, leurs propres hommes qu'ils avaient lors de la rébellion et qui ne sont pas brassés jusque-là. Voilà, c'est encore des problèmes comme ça qu'il ne faut pas éluder.
Oui, Patrick Mouyaya, vous avez tantôt là parlé des capacités des nuisances de ces milices. Est-ce qu'à ce jour, on peut craindre qu'ils ne puissent aussi nuire aux élections, par exemple?
Il y a fort à craindre quand ces milices se permettent de capturer 7 casques bleus de la MONUC. C'est dire, premièrement, qu'ils ont la maîtrise du terrain dans lequel ils opèrent, visiblement. Je présume que ces 7 casques bleus sont tombés dans un étau, ils n'ont pas su comment s'en sortir. Il y a fort à craindre puisque cette capacité des nuisances, même aussi minime soit-elle, est capable d'empêcher à certains compatriotes de s'exprimer au cours des élections. Mais bon, on se dit aussi qu'au regard de toutes les dispositions sécuritaires qui sont en train d'être mises en place aux côtés de 12 brigades brassées qu'a déjà fourni les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a cette force de l'Union européenne qui arrivera en renfort et qui sera prête à intervenir toutes les fois que la MONUC en fera la demande. Je présume que pour les cas de poche comme celle des Litouri, si la MONUC n'est pas en mesure de contraindre effectivement les armes, il y aura peut-être cette capacité nouvelle, cette force nouvelle de l'Union européenne qui pourra permettre d'endiguer ce problème. Tout à l'heure, Nancy parlait des milices qui opèrent encore, mais moi je me dis que même si milices il y a, même si, il faut le dire clairement, certains membres de l'espace présidentiel ont encore un certain impérium sur les hommes qui composaient leurs ex-armées, je doute fort que ces hommes n'aient une réelle capacité des nuisances au regard des enjeux qui se profilent à l'horizon et en partant du fait que les principaux maîtres de ces miliciens sont eux-mêmes candidats. Ils ne pourront peut-être pas prendre le risque de compromettre ces élections, qu'importe les résultats qui leur sera réservé, au risque de se faire attirer la foudre de la communauté internationale. Vous savez, la CPI existe déjà.
Oui, Eric Kadimba, pourrait-on, selon vous, arriver à endiguer le problème des miliciens même avant les élections?
Bon, les milices de l'Ituri, vous voulez dire?
Oui, les milices de l'Ituri, par exemple, parce qu'on parle d'eux en ce moment.
Oui, évidemment, ce qui est vrai, c'est que c'est peut-être difficile qu'on les endigue de façon, disons, totalement, mais ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a des avancées par rapport à cette question des milices. On sait que ces milices n'ont aucun agenda politique. Quand on voit un peu comment elles se déploient aujourd'hui, on sait que c'est pratiquement des milices qui sont avec des carrés d'or, qui font l'exploitation du bois, etc., et qui font une sorte d'économie de guerre. Et donc, comme ils n'ont aucun motif, je dirais, politique, qu'il faudra continuer à le traquer. Et déjà, il y a des avancées parce qu'il y a certaines localités comme Tchéhi qui sont stabilisées. Et donc, on ne peut qu'encourager les FARDC et la MONUC pour multiplier les efforts de façon à les réduire jusqu'à leur, dans leur dernier retranchement, si possible.
Alors, la MONUC exige la libération donc de ces casques bleus dans l'immédiat et sans condition. Je vous invite à suivre Kemal Saïki, porte-parole de la MONUC, au micro de notre consoeur Mimi Ngumba.
Après vérification et recoupement des informations à notre disposition, confirmer que ces 7 casques bleus ont été capturés par le groupe de rebelles qui étaient impliqués dans l'accrochage. Nous avons, par le biais de contacts indirects, envoyé un message très clair, sans ambiguïté, aux personnes qui détiennent nos casques bleus. Elles sont mises en demeure de les relâcher immédiatement, sains et saufs, et sans condition aucune. Ceux qui détiennent nos casques bleus ont la responsabilité de leur sort. Et la MONUC tient pour personnellement responsable le chef du groupe impliqué, en l'occurrence M. Peter Karim, du sort de nos casques bleus qui, je le répète, doivent être immédiatement relâchés, sains et saufs et sans condition.
Alors la MONUC met en demeure donc les hommes des Peter Karim. Nancy Odia, peut-on craindre qu'il y ait une réplique de la MONUC si ces casques bleus ne sont pas libérés?
Ce qui serait tout à fait normal. Je disais tout à l'heure que les troupes de la MONUC sont parfaitement bien équipées pour cela. Et c'est vrai que la répression agressive devrait être l'exception, la règle devait consister en ce qu'on négocie, qu'on y aille par des voies diplomatiques, peut-être qu'il y aurait reddition volontaire des responsables de ces milices. Mais si la MONUC devait agir brutalement après ces actions posées par ces milices de l'Ituri, ce ne serait pas une mauvaise chose. La population congolaise n'attend que ça. Depuis tout ce temps, on dit d'elle qu'elle ne faisait pas son travail et tout, malgré sa présence. Il y a encore de poches, de zones de conflit en République démocratique du Congo à l'approche des élections. Si elle agissait dans ce sens-là, ça ne serait pas mal du tout.
Mais Eric Kadjemba, est-ce qu'on ne pourrait pas craindre des conséquences directes sur les habitants même de ces contrées là où évoluent les hommes des Peter Karim par exemple?
Oui, donc je pense que les conséquences, il peut y en avoir, mais nous pensons que Peter Karim va effectivement essayer de diffuser la sagesse, parce que je pense qu'il y a il doit comprendre que l'heure de l'impunité est terminée, parce que il y a à prendre l'exemple de Thomas Lubanga qui aujourd'hui est en train de reprendre ses actes. Et donc je pense que si il est sage et s'il a un peu de discernement, il ne peut pas arriver au pire. Évidemment, de l'autre côté, il y a la MONUC qui devrait effectivement faire attention, parce qu'il y a les populations civiles qu'il faudra protéger. C'est pourquoi il ne faut pas y aller, je crois, par force. Il faut effectivement initier des négociations indirectes, comme l'a dit le porte-parole de la MONUC, et de façon à ce que ces personnes soient libérées. Mais je continue à dire que Peter Karim devrait faire attention et comprendre que s'il osait nuire à ses casques bleus, je crois que là, il peut en avoir pour son compte, et je crois qu'il doit extrêmement faire attention.
Patrick Mouyaya, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Quelle pourrait être l'attitude même de la MONUC par rapport à cette situation?
Le plus important à sauvegarder, de mon point de vue, à ce stade, c'est la vie de ces casques bleus. La MONUC, qui demande à Peter Karim de les libérer sans condition, est un peu trop exigeante. C'est-à-dire que pour Peter Karim, qu'il faut le dire, l'impérium, pour l'instant, sur la vie de ces casques bleus, il peut dire que, bon, des injonctions de la MONUC de ce genre, il ne peut pas le recevoir, dans la mesure où la MONUC, il faut le reconnaître, est en position de faiblesse. Ces hommes ont été capturés et qu'il devrait y avoir un couloir même secret des discussions entre Peter Karim et la MONUC pour permettre justement la libération de ces casques bleus. Autrement, utiliser la force apporte des dommages collatéraux de part et d'autre. C'est vrai que la MONUC, elle est plus puissante de loin que les éléments de Peter Karim, mais il y a des conséquences qui peuvent s'abattre sur la population, des conséquences qui peuvent créer peut-être créer peut-être des blessés du côté de la MONUC, peut-être mettre en danger la vie de ces casques bleus pour lesquels la MONUC est prête à tout, il faut le dire aussi, pour qu'ils soient gardés.
Alors, poursuivons et parlons maintenant de médecins. Alors, la grève des médecins s'intensifie dans les hôpitaux et autres formations médicales de la capitale. Dans un communiqué de presse publié le week-end dernier, le syndicat national des médecins déclare que 3 semaines après avoir observé un arrêt du travail, leurs revendications n'ont pas abouti. Et un professionnel de santé que notre confrère Rémi Capital joint estime même que cela fait plus de 2 ans qu'il réclame des meilleures conditions de travail et de vie à l'État congolais, mais sans succès. Je vous invite à suivre ce professionnel de santé.
Les hôpitaux qui donnent ou qui dispensent les soins à la population n'ont pas été pris en compte par le ministère de la Santé. Le financement mis à la disposition du ministère de la Santé a été plus affecté dans les projets et les programmes du ministère, et les hôpitaux sont tels qu'ils sont depuis très longtemps. C'est ce qui fait qu'il y a des motivations des agents qui travaillent dans les hôpitaux. Le gouvernement dans son ensemble, le ministère de la Santé en particulier, très insensible à l'écoute des agents de la santé, des professionnels de la santé, qui croupissent dans la misère comme toute autre population congolaise. Nous sommes en négociation depuis 2 ans, ça ne répond pas. Les choses ne marchent pas, toutes les négociations aboutissent toujours à des difficultés.
Eric Kadjimba, d'abord, que dire de cette grève observée par ces professionnels des santé, surtout ici à Kinshasa et à Matadi?
Bon, je ne sais pas si cette grève est venue à point nommé parce que, bon, il y a des revendications, c'est vrai, de la part de médecins, et ce qui est normal parce que, effectivement, ce n'est pas seulement les cas de médecins, c'est pratiquement tous les fonctionnaires de l'État qui ont de problèmes. Mais je me dis, maintenant, un mois d'élection, bon, c'est vrai qu'on peut faire cette pression, mais qui en souffre, ce sont les populations civiles. Je me demande si le gouvernement actuel, maintenant, il peut avoir des préoccupations de ce genre, si il n'est pas tourné vers autre chose, notamment les élections et la préparation des élections et autres. Et donc, je ne sais pas si c'était vraiment venu à point nommé. Je pense que il ferait mieux, disons, d'attendre le gouvernement à venir, parce que je n'attends pas grand-chose pratiquement.
Donc, pour vous, les élections vaut toute autre revendication.
Pardon?
Si, pour vous, donc, les élections sont tellement importantes qu'on ne peut pas, en ces moments, se lancer dans des revendications à gauche, à droite.
Oui, moi, à mon avis, aujourd'hui, il faut se concentrer sur les élections. Et ces revendications, il y a pas beaucoup de chances qu'aujourd'hui, elles puissent vraiment porter de fruits. Et il faut plutôt se concentrer sur les élections et voir si on peut faire inscrire ça, cela dans le budget de l'année prochaine, et avec des institutions légitimes et autres. Et encore que, à ce que je sache, il y a quand même des efforts qui ont été faits, par exemple, sur l'amélioration des conditions de vie des médecins. Je crois que si j'ai de bonnes informations, je pense qu'ils ont une sorte de prime spéciale, etc. Et même si ce n'est pas encore suffisant, mais je pense que au moins pour eux, il y a quelque chose qui a été amélioré pendant cette transition.
Oui, Patrick Omiyaya, êtes-vous de cet avis qu'il faut attendre les élections pour faire des revendications, parce que ça ne vaut pas la peine de le faire en ce moment, parce qu'il n'y aura pas de réponse finalement?
Bah, peut-être qu'il y aura une réponse, mais bon, de toute manière, c'est une question d'opportunité qui s'oppose aussi dans l'état actuel où nous sommes, avec les partenaires en suspendu, l'appui qu'ils accordaient au gouvernement, et que là où nous sommes actuellement, et le gouvernement n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour voir dans quelle mesure répondre aux différentes revendications des médecins. Mais il faut dire aussi qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire reproche aujourd'hui à ces gouvernements de transition, mais il y a eu quand même des décisions fortes qui ont été prises et qui ont été respectées, notamment qui ont porté sur les respects, les revendications des différents corps sociaux. Mais cette crève des médecins vient relancer une autre, celle des infirmiers qui étaient déjà en attente, mais qui décident dès le lundi prochain de radicaliser leur mouvement en suspendant carrément les services minimums qui étaient observés, les enseignants pour leur
part. Avec comme quelles conséquences, par exemple?
La mort d'homme, c'est tout à fait normal. À Kinshasa aujourd'hui, par exemple, rotativement, quotidiennement, il y a deux hôpitaux qui sont choisis pour les urgences. Imaginez un hôpital qui choisit pour les urgences qui se trouve de l'autre côté de la Tiangou, un malade qui doit être à Bandalungwa, qui doit être acheminé. Vous voyez tout ce temps que ça prend. Ce sont des vies qui sont menacées. Et les infirmiers paramédicaux, ce sont le premier qui accueille les malades quand ils arrivent à l'hôpital. Imaginez ces services minimums qui étaient déjà observés, n'y l'être plus. C'est des morts d'hommes qui sont causées. Mais bon, c'est vrai que les médecins ont peut-être le droit de revendiquer pour ce qui concerne leur subsistance, mais le contexte ne s'y prête pas. Il faudrait peut-être l'inscrire urgentement dans l'agenda du gouvernement qui sortira des élections attendues dans les prochaines.
Alors, Nancy Audien, donc le médecin revendique leurs arriérés des salaires, leurs arriérés des primes des risques, mais on a vu également, comme vient de le soulever Patrick Mouyaya, les infirmiers entrer en grève aussi pour réclamer qu'on leur paye désormais, comme les médecins, des primes des risque, mais en retour, ils n'ont rien reçu, qu'il y avait que des promesses. Est-ce que pour le médecin, ils doivent s'attendre également à quelque chose, surtout qu'on n'a pas donné des réponses aux autres professionnels de santé, c'est les infirmiers.
Leurs revendications sont tout à fait légitimes. C'est pas parce que les autres n'ont pas eu
gain
de cause que eux doivent se taire. C'est la liberté d'expression. C'est un droit reconnu à chaque individu. Moi, je me dis, c'est une habitude, c'est vrai. Nous sommes habitués à ces grognes sociales, les médecins, les enseignants. Bref, c'est, la tension sociale est quand même forte. Mais je me dis, il y a des classes sociales, professionnelles, qui n'ont pas droit à des grèves, en fait. C'est pas peut-être le mot qui convient.
Public, d'ailleurs.
Non, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais il y a des classes sociales qui vous paralysent le fonctionnement de la vie quotidienne. Je prends le cas des enseignants qui étaient en grève. C'est tout le monde qui a senti le poids de cette grogne. Et pour les médecins, c'est la même chose. Moi, je donne un exemple. J'ai une amie qui vient de perdre son mari parce que ils ont fait le tour des hôpitaux et son mari avait piqué une crise. Ils n'ont pas pu trouver un seul médecin. Ils ont fait le tour des hôpitaux et finalement, quand ils sont arrivés au tout dernier, où ils ont trouvé peut-être un centre hospitalier privé, ils ont trouvé un médecin, la tension était 0-0, le monsieur était mort.
Et sur la balance, est-ce qu'un médecin qui meurt de faim peut soigner?
Mais c'est ça que je me dis. Je ne sais pas où va ce pays, parce que si même cette classe sociale-là, qui tient la vie quotidienne des hommes entre ses mains, arrive à sacrifier, c'est vrai que c'est pas aisément que ces médecins le font. Ils ont commencé par laisser sur place un service minimum, et après quoi, ils ont dit c'est la grève sèche, mais il y a des hôpitaux qui fonctionnent rotativement, et ils disent qu'à partir du 5 juin, s'il n'y a rien, ce sera la grève totalement sèche. Donc c'est que ce sont des hommes, ils savent qu'il y a des conséquences néfastes directes sur les populations, mais ils laissent quand même une marge de manœuvre au gouvernement. Et nous savons comment ça va se terminer, il y aura des promesses, le ministère qui promet ceci, la vice-présidence et tout, et finalement on
ils vont reprendre le boulot
et... Ouais, après lorsque ce ne sera pas chose faite, ils vont reprendre les mêmes mouvements de grève, mais finalement on s'est dit aussi que c'est vrai que le pays a un problème de financement. Déjà, le budget lui-même est dépourvu de plus de 55% de ses recettes avec la Banque mondiale et le FMI qui ont décidé de fermer le robinet. Et puis, il faut dire que le circuit macroéconomique n'est pas très clairement géré et il faut arriver à assainir ce circuit macroéconomique, arriver à renflouer les caisses de l'État pour que finalement les pays arrivent à prendre soin de ces travailleurs, des fonctionnaires de l'État. C'est quand même un des aspects qu'il ne faut pas négliger, surtout que nous allons aux élections. C'est vrai qu'on ne menace pas le gouvernement, mais il faut quand même flatter les petits peuples, ne serait-ce qu'en répondant au minimum de leurs besoins. Ce serait vraiment intéressant. Mais à la lourde vont les choses, il n'y a pas que les médecins, comme on l'a dit. On se demande bien si d'ici le 30 juin, comment serait la tension au niveau de la population.
Alors, le médecin de la province orientale emboîte les pas à leurs collègues de Kinshasa et de Matadi. Hier encore, c'était les médecins aussi des Mbandaka qui ont fait la même chose. Donc, c'est ce matin même une grève illimitée dans tous les hôpitaux publics, tant de Kisangani que de l'intérieur de la province, a été décrété. Alors, le secrétaire provincial du syndicat national de médecins, Dr Roger Amissi, qui est des Kisangani, motive ce mouvement par le même revendication que ceux de leurs collègues, celles de leurs collègues ici à Kinshasa. Mais néanmoins, ils ont décidé que les malades ne seront pas abandonnés. Un service minimum sera organisé dans tous les hôpitaux. Alors Patrick, cette grève risque en fin de compte d'embraser toute la République et les conséquences seront énormes.
Tout à fait. La grève des médecins, vous savez, Nancy le disait tout à l'heure, c'est déplorable qu'une femme perde son homme puisqu'il n'y a pas eu un médecin trouvé à gauche. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cette grève qui se profile, disons, cette radicalisation d'une grève qui se profile à l'horizon avec les infirmiers, les enseignants qui vont emboîter le pas. Nous risquons finalement d'aller aux élections dans un climat social totalement détérioré. Moi, j'estime qu'à ce stade, il faudrait que chacun fasse preuve d'un regain de patriotisme, médecin, infirmier. C'est vrai que tous, on n'a peut-être pas ce qu'on devrait avoir par rapport au travail que nous faisons, mais de l'autre côté, il y a ce travail pour lequel nous vivons, ce travail pour lequel nous nous sacrifions, puisqu'il faut le dire, c'est aussi une preuve pour ces médecins que de continuer à faire leur travail malgré tout ce qu'il y a comme contrainte. C'est vrai qu'ils pensent peut-être que le gouvernement a un dernier souffle, que je ne sais pas affirmer ou infirmer cette information. S'ils continuent de gréver, ils ont l'espoir que le robinet sera ouvert finalement. Mais bon, on espère aussi que ces robinets soient ouverts, mais sinon, dans le cas échéant, si ces robinets n'est pas ouverts, il faudrait bien que le médecin reprenne les bistouris et que les infirmiers en fassent de même, encore plus les enseignants, puisque l'année scolaire est pratiquement finie. Je ne vois pas l'opportunité de vouloir mettre en mal une année qui a très mal commencé pour les plus blancs. Vous savez, ceux qui pourront perdre, pour ce qui concerne leur instruction, une année perdue, on ne sait pas toujours la rattraper.
Eric Kadjimba, est-ce que y a-t-il une façon ou un moyen pour l'État congolais de mettre fin à cette grève avant qu'elle ne contamine toute la République?
Oui, je pense que l'État congolais devrait engager un dialogue avec le syndicat de médecins pour que effectivement ça ne continue pas. Comme disait Patrick, je pense qu'il faut contextualiser un peu, cette grève et que les médecins comprennent que pour l'instant, on a de priorité. Il ne faut pas qu'on aille aux élections avec une tension sociale tout à fait montée. Et il faudrait comprendre que les élections sont pour nous, un enjeu important pour les Congolais et qu'il serait mieux de se concentrer là au lieu justement de donner l'occasion à tous les fauteurs à nos troubles de passer par là. Et demain, ça peut être les fonctionnaires. Après, demain, ça peut être d'autres corps. Et à ce moment-là, je crois que ça risquera de nous faire rater le virage qui pour nous est important. On sait que nous sommes en train de traverser un moment très, disons, une période
trouble, si on peut le dire ainsi. Voilà. Oui, Nancy Odia, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour ces médecins afin d'endiguer cette crève?
C'est d'abord question de volonté. C'est vrai qu'on peut ne pas avoir les moyens de répondre directement aux besoins, aux revendications de ces médecins, mais s'ils sont dans les chefs de ceux qui dirigent, la sincère volonté de vouloir améliorer les choses et
apporter
le dialogue, un dialogue surtout sincère. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger les vertus du dialogue. Quand il est sincère et qu'il y a des garanties de part et d'autre, on peut être sûr de résoudre des problèmes. Et puis moi, je me dis, mais la grève ou pas grève, la situation est pareille dans les hôpitaux. Ensuite, en temps normal, tomber malade et aller dans un hôpital où le médecin a 10 000 francs congolais le mois, si vous ne donnez pas quelque chose en plus de ce que vous payez à l'hôpital, il ne vous soigne pas. On n'a pas de médecins qui travaillent maintenant, mais en temps normal, c'est une situation qui est un peu analogue, qui se vit dans ces hôpitaux. Bref, je me dis, il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas voir ce qui se passe. L'heure est venue peut-être d'interpeller ceux qui sont au sommet pour qu'ils tiennent compte de cette situation. Vous voyez, faites un tour vers l'hôpital général de Kinshasa, vous remarquerez que cet hôpital sont déjà mauvais. C'est déjà un problème aussi pour les habitants de ce coin de la capitale, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui sont pas soignés, qui font tout là. Bref, c'est une situation qui pourrait engendrer encore des cas de maladies et c'est pas à prendre à la légère.
Eric Kadimba a tout de suite, a tantôt là parlé des élections. Est-ce que vous pensez qu'avec dans la phase actuelle où nous sommes, les dirigeants auront besoin la tête aux problèmes des médecins au lieu d'avoir la tête aux élections?
Et pourtant, il serait mieux vu, peut-être beaucoup mieux vu s'y mettait, parce que la campagne arrive bientôt, non?
Ils peuvent bien savoir, mais il faudra aussi se poser la question s'ils ont une réelle marge de manœuvre. C'est vrai que Nancy a dit tout à l'heure que les dialogues contenaient des vertus qui pouvaient résorber beaucoup de problèmes, et il n'y a pas des dialogues qui peuvent s'achever sans promesse. Et vous voyez, le gouvernement actuel, il est considéré comme un gouvernement déjà sortant et qui a comme priorité, dis bon, pour ces acteurs, ils ont comme priorité de vouloir se faire élire. Mmh. Le compte, les robinets de FMI Banque Mondiale sont fermés. Il n'y a peut-être pas des véritables issues pour permettre de résorber totalement tous ces mouvements de grève qui tentent de se créer. Répondre aujourd'hui aux médecins, ça
serait donc les frustré. Candidats qui va promettre, par exemple, aux médecins qui seront bien payés après les élections pour
Mais Breux, quel candidat ne promettra pas, mon merveille, ses potentiels électeurs? Tous les candidats en feront de même, mais il sera finalement question, puisque ce ne sont pas des candidats qui vont payer les médecins avec ce qu'ils auront dans leur poste, c'est plutôt le gouvernement qui doit élaborer une politique globale, c'est-à-dire que non seulement il faut bien payer le médecin, Nancy le disait tout à l'heure, il faut veiller aux bonnes conditions de travail de ces médecins, aux bonnes conditions d'accueil de ces malades, les centres hospitaliers, les principaux que nous avons, vous voyez dans quels états piteux ils se trouvent. Il faudrait bien qu'une politique globale puisse résorber à tout ce problème. Un entraînera peut-être la résolution de tout son gouvernement. Une politique responsable serait de donner des réponses aux revendications de tous les corps sociaux.
Alors, parlons de ces élections. Depuis la publication du calendrier électoral fixant la date du premier tour des élections présidentielles et les législatives nationales au 30 juillet prochain, des marches s'organisent à travers différentes villes du pays. Et suivons ce point avec René Capita.
Si d'aucuns voudraient soutenir ce calendrier tel établi par la CEI, pour d'autres par contre, ce nouveau calendrier est anticonstitutionnel. Il va au-delà de la date de la fin de la période de prolongation de la transition, c'est-à-dire le 30 juin. Tenez, le 24 mai dernier, certains partis de l'opposition politique ont marché à Kinshasa pour réclamer des négociations politiques avant la tenue des élections. La réponse du berger à la bergère n'attendra pas longtemps. Le 27 mai, le PPRD, l'UNAFEL qui est la fondation katangaise, organise une marche à Lubumbashi pour soutenir le calendrier électoral et dire non à toute négociation politique avant les élections. Ce mouvement sera suivi au sud Kivu le mardi 30 mai, où, sous la conduite de la société civile, environ 5000 personnes vont descendre dans la rue pour exiger le respect du calendrier électoral. Toujours pour dire non aux négociations, le mercredi 31 mai, sous la conduite du comité de développement de Kinshasa, CODEC en sigle, mouvement acquis au PPRD, une marche aura lieu à Kinshasa. Au même moment et sur le même itinéraire, les partisans du FONUS, parti des Olingankoy, vont marcher pour la tenue des négociations avant les élections.
Eric Kadimba, on assiste là à un jeu de passe-passe, si on peut les dire ainsi. Les uns organisent une marche pour dire non, les autres organisent une marche pour dire oui. Comment pouvez-vous analyser cette situation à la veille même des élections?
Bon, il est tout à fait normal que, effectivement, il y ait des personnes qui ne pensent pas comme les autres. C'est tout à fait normal, c'est même ça la démocratie. Mais nous pensons que ce qui importe, et je crois, c'est de comprendre que les élections sont très importantes et qu'on vient de passer plus de 3 ans autour de 3 ans de transition et que effectivement il faut avoir le pied sur terre et comprendre que ce qui disons l'objectif ultime reste les élections. C'est là qui demande les dialogues, peut-être qu'ils n'ont pas tort de le demander, mais la question c'est de savoir c'est dans quel format qu'ils le demandent, quel serait le contenu de ce dialogue, le timing, etc. Et donc si tous ces éléments on essaie de les analyser, on verra bien qu'on n'a plus du temps à donner autant et que si ces dialogues dont on parle peut nous ramener encore 2, 3, 4 mois après, je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui serait, enfin, ou la majorité de Congolais ne serait pas prêt justement à encore prolonger, tout le monde serait allé aux élections. C'est ce qui ressort un peu de toute ce marche.
Oui, Patrick Mouyaïa, on voit là que les débats sur le calendrier anticonstitutionnel est encore une fois relancé. Pensez-vous qu'à ce stade, il faut en rester là et continuer à dire que le calendrier tel qu'établi est anticonstitutionnel pour la donc la, les groupes hein, qui soutiennent en fait cela?
Inconstitutionnel, je dirais non, dans la mesure où l'article 11 de la loi électorale demande à la commission électorale indépendante de fixer les calendriers électoraux. Encore qu'il faut préciser que la commission électorale est une commission technique qui a pour tâche l'organisation des élections. La CEI peut vous dire que par rapport aux contraintes auxquelles je bute, je ne peux les faire qu'au-delà du 30 juillet. La CEI fixe les calendriers électoraux et ne prolonge pas la transition. Mais tout à l'heure, on parlait des marches et des revendications. Là, on assiste...
Non, vous dites que ça ne prolonge pas la transition, mais ceux-là, au fait, qui trouvent que la transition est prolongée, c'est par rapport au fait que cette date va au-delà même du 30 juin.
J'en arrive. J'ai bien précisé que la CEI était une commission technique. La commission technique, par rapport aux contraintes auxquelles elle fait face, dit que moi, je suis prêt...
organiser les élections avant le 30 juin
Au 30 juillet. Mais il s'est posé des impératifs, des reports, des lois données en retard qu'elle ne soit pas prête au 30 juin. C'est aux politiciens maintenant qui sont à la base de ces retards, il faut le dire, c'est les politiciens qui composent le gouvernement et le Parlement qui sont à la base de ces retards, qui accusent la commission électorale indépendante de prendre toutes les responsabilités. Mais de ce point de vue, on se rappelle qu'il y a exactement une année, il y a le président de la République qui a convoqué ce qu'on a appelé séminaire interinstitutionnel. Ce séminaire interinstitutionnel a eu le mérite de réunir tous les hommes politiques. Bien sûr, c'est de l'opposition a été invité, mais ils n'ont pas assisté, élargi aux forces sociales, les églises étaient présentes, les SIAT aussi, c'était une forme de dialogue qui a été établie au terme de deux premières années de la transition qui s'achevait. Il y a eu un chronogramme qui a été élaboré après, fixant le tâche dévolue à chacune des institutions, quitte à ce que les élections se tiennent au 30 juin. Et il faut dire aujourd'hui que si les élections ne se tiennent pas au 30 juin, il y a visiblement eu échec ou les réponses attendues aux questions formulées il y a une année n'ont pas totalement trouvé satisfaction. Donc, pour ceux qui réclament les dialogues, moi je pense, à mon avis, qu'ils sont en droit de le dire, puisque s'il y a 2 ans, on a convoqué pour qu'on fasse ne fût-ce que le bilan de 2 premières années, il est aussi envisageable que 3 ans plus tard, l'on veut réunir du moins les principaux signataires d'accord global inclusif élargi à certaines forces politiques, comme il y a une année, pour essayer de faire le point de ce qui en reste encore du processus. Mais la peur, c'est peut-être par là que je vais finir, la peur de voir ces assises se tenir, c'est qu'il faudra en tirer des conséquences. Les conséquences seraient lesquelles? Vous vous êtes donné une tâche en une année, vous n'avez pas réussi à le faire, et les bilans, et quand on tire des conséquences, il faudrait bien... Il faudrait faire un bilan, et les bilans, quand il est négatif, soit qu'on vous change, soit qu'il y a ceci, soit qu'il y a cela. Mais bon, en tout état de cause, l'objectif prioritaire, c'est les élections. Et puisqu'ensemble nous acheminer aux élections, on peut donc nous croiser, discuter, faire le bilan et dire que le prochain gouvernement aura peut-être telle tâche, mais bon, on fait d'abord les élections.
Oui, Nancy Odia, que dire de ces marches organisées des parts et d'autre qui semblent être en fin de compte des bras de fer des uns des autres?
Donc, étant donné que le problème est d'abord politique et non pas des textes, ces réactions des différentes tendances politiques se justifient parfaitement parce que telle autre tendance voudrait qu'on se mette autour d'une table et telle autre encore n'en veut pas. Tout à fait normal ce genre de réactions. C'est vrai qu'on a entendu dire qu'il y a une des tendances qui aurait soudoyé des manifestants pour se joindre à leur mouvement ou à leur action. Mais bref, je ne veux pas trop polémiquer là-dessus. Et parlant de problème des textes, je voudrais quand même marteler sur le fait que le peuple congolais, le 18 décembre dernier, lors du référendum, avait déjà accepté, même implicitement, la prolongation de la transition. Parce que le pays était géré par la constitution de la transition qui, en son article 196, déterminait la fin de la transition après 3 ans.
le 30 juin prochain.
Le 30 juin prochain. Mmh. Ok, mais après le référendum, le pays est géré par un autre texte, c'est-à-dire la Constitution de la Troisième République, qui, elle, parle des dispositions transitoires en son article 222, c'est-à-dire ceux qui sont en place, ceux qui sont à la tête des institutions, ils restent jusqu'à la fin, jusqu'aux élections. Si ces élections vont avoir lieu dans 2 ans, ils sont là jusqu'à la tenue de ces élections. Il n'y a que ceux qui seraient élus par la voie des urnes qui pourraient le remplacer. Et bref, déjà sous le plan du texte, il n'y a rien à dire. Nous sommes dans les voies légales, mais sur le plan politique, il faut reconnaître quand même qu'Hassan Siti s'était mis d'accord pour que cette transition dure 3 ans. C'est-à-dire on ne peut pas franchir le cap, aller au-delà, sans pour autant se mettre autour d'une table. C'est vrai que les Congolais négocient très mal pour parler qui serait prévu pour une semaine prendrait 45 jours comme à Sun City, il faudrait bien circonscrire le cadre du dialogue et peut-être, comme l'a proposé un des vice-présidents de la République, des concertations, mais à format réduit. C'est vrai qu'il y a une tendance politique d'opposition qui n'est pas dans les institutions, qui constitue quand même une force sociale et politique forte qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc, mais à format réduit, ça pourrait résoudre les choses.
Et éviter... Et si cette tendance-là qui n'est même pas au sein des institutions réclame de rejoindre les institutions, quel risque pour les élections par exemple?
Bon, on prolongerait peut-être des quelques mois. C'est vrai qu'il n'y a pas, je parle bien de l'UDPS, faut pas se voiler la face. L'UDPS est allié. C'est vrai que cela ne se ferait pas sans qu'il y ait perturbation quelque part du calendrier électoral. C'est-à-dire ces élections censées avoir lieu dans 1 mois, 2 mois peut-être ne pourraient être organisées que 4, 5, 6 mois plus tard.
C'est fait des années. Un an plus tard, parce qu'il va falloir ouvrir les bureaux, les nouveaux électeurs.
Il y a une certaine opinion qui laisse entendre qu'en 15 jours, on pourrait résoudre ces problèmes. Même pas ouvrir de bureaux dans toutes les provinces, mais peut-être dans certains secteurs de la ville.
Si ça ne se fait pas dans toutes les provinces, peut-être que... La personne qui sera à Mbandaka va aussi réclamer.
Là, je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus. C'est une question quand même sensible. Patrick, s'il te plaît, c'est une question quand même sensible. Moi, je ne voudrais pas donner l'impression que nous appuyons telle ou telle autre tendance, mais je me dis que il faudrait être quand même logique et honnête, comme pour dire que, voilà, nous nous sommes entendus pour que nous soyons là pendant 3 ans. Nous franchissons le cap, il faut que nous nous mettions d'accord sur la manière dont nous allons évoluer.
Eric Kadjemba, est-ce que il faut trouver un intérêt d'attente entre les différentes tendances avant les élections surtout.
Le problème, comme disait Nancy, c'est que le Congolais négocie toujours très mal. Et si on fait un dialogue, il se posera sûrement des questions de format, de contenu, etc. Et je crois que ce sera la crainte. Et si, par exemple, on sait que, par exemple, si cela est élargi aux autres tendances qui sont dans d'autres institutions, est-ce qu'ils vont rentrer dans les institutions pour y faire un ou 2 mois? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et donc, la crainte, justement, c'est que on assiste à une sorte d'arrangement, comme ça a toujours été le cas depuis 90, et finalement, à faire compliquer les choses pendant que nous avons déjà un calendrier et qui est là et qui a des étapes et apparemment les étapes sont bien suivies. Je pense qu'il n'y a qu'à s'inscrire dans ce calendrier et aller aux élections. Mais les dialogues, je l'ai dit tout au début, ce n'est pas mauvais de dialoguer, mais tout le problème c'est de savoir comment on le fait, est-ce qu'on va respecter les engagements, etc. Et je pense que dialoguer, il y a des cadres qu'on peut créer, comme le forum de partis politiques que la CI mène, il y a d'autres espaces dans lesquels les différents acteurs peuvent se retrouver, au lieu justement de retoucher sur le calendrier qui est déjà là et qui semble être en train de courir maintenant.
Oui, on parle des dialogues, on parle des dialogues bien sûr, mais qui va prendre cette décision? C'est là où est le problème aussi, qui va décider que on y va, on entame les dialogues?
L'initiative doit provenir normalement du président de la République. Madame, il faut dire qu'il y a eu des candidats qui se sont proposés de financer ces assises, mais tant que l'initiative ne viendra pas du chef de l'État...
Dans la tendance du parti et de ne pas renégocier. Donc.
Et puis, bon, il faut dire aussi renégocier quoi? Quand on sait par exemple qu'aujourd'hui, il apparaît impossible de rouvrir le bureau de vote, les quotients électoraux, il est verrouillé, il a été fixé par rapport au nombre de Congolais qui se sont enrôlés. Mmh. C'est aussi ouvrir comme une boîte de Pandore. Je lisais un journal qui disait que bon, dialogue oui, mais prolongation non. Il y a toujours possibilité de dialoguer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple du séminaire interinstitutionnel en est un. On peut se retrouver dans ces cadres-là et discuter et voir dans quelle mesure intégrer les autres. Mais l'objectif principal demeure, c'est les élections.
Eh oui. Donc, c'est ici que nous mettons un point final à cette tribune de la presse. Nous vous disons donc merci. J'ai dit merci à Patrick Mouyaya, qui est journaliste à la chaîne Radio-Télévision CBS, Eric Kadjemba, qui est journaliste à la radio Maria de Bukavu, et Nancy Odia, qui est directrice d'information à Congo Web Télévision. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Cette émission sera rediffusée demain à 5h30, heure de Kinshasa. Vous pouvez également la retrouver sur le site internet sur www.radio.net. radiocapi.net, et les auditeurs et nos auditeurs sur ondes courtes peuvent la suivre sur 11.69 kHz. Alors au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais, je vous dis au revoir et à vendredi prochain.